Chers frères et sœurs, parmi les disciples du Christ, il y avait des personnes vraiment très différentes. Et sur toutes ces personnes est venu l'Esprit de Dieu. Il y avait des gens de toute la terre au moment de Pentecôte, au moment où l'Église devient une sorte de réalité. Des gens très différents et un même esprit pour chacun. C'est exactement ce qui se vit aujourd'hui encore ici même. Nous sommes réunis, très différents les uns des autres. Un seul esprit pour nous tous. Un seul esprit pour nous animer. Un seul esprit venant d'un seul Seigneur qui nous aime. Et lorsque je vous dis que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, cela nous fait comprendre que nous sommes tous à égalité face à cette miséricorde. Et qu'entre nous tous, un lien de fraternité se tisse. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous et faisons bon accueil à cette grâce de Dieu en chantant la première strophe du psaume 81. Levons-nous pour chanter cette première strophe. Oui, nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse. Nous te rendons grâce de nous avoir donné ton Fils, qui est devenu notre Sauveur, notre frère. Dès sa naissance, il nous apparaît sous les traits qui lui resteront toute sa vie, un amour inconditionnel pour tous. Qui s'est manifesté aux pauvres, aux petits et aux pécheurs. Il nous révèle que tu es un Dieu qui prend soin de chacun et qui nous appelle à une vie toujours plus belle. Christ est notre lumière, une lumière éternelle qui dissipe à jamais nos ténèbres. Alors, pour cette vie en plénitude que tu nous offres, nous te rendons grâce, Père très miséricordieux. Amen. Au psaume 95, je vous propose de chanter les strophes 1, 3 et 4 du psaume 95 pour poursuivre notre louange.
Thank you.
place. Et recueillons-nous dans la prière de repentance. Seigneur, j'ai besoin de déposer devant toi non seulement le poids de mon souci, mais le poids de ce que la Bible appelle le péché. J'ai besoin que s'arrêtent mes excuses, car elles ne trompent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin que se taisent les regrets qui ne délivrent personne, et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ces sacs de nœuds qui m'étouffent, qui m'entravent. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse me confier, faire preuve de sincérité, m'exposer en vérité. J'ai besoin d'en finir avec les soucis, avec ces remords qui me rongent du dedans. J'ai besoin de sérénité. J'ai besoin d'apaisement. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté, Seigneur. Oui, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Amen. Restons assis pour chanter la troisième strophe du psaume 81. L'apôtre Paul écrivit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Là est le bénéfice de la foi. La foi, c'est dire oui à la possibilité d'être en Christ, de nous tenir vraiment devant Dieu. Par la foi, nous sommes une nouvelle créature, libérée de toutes les servitudes symbolisées par l'Égypte dans la Bible. Nous sommes une nouvelle créature capable d'aimer et d'être aimée. Eh bien, cette promesse d'être une nouvelle créature est pour nous tous, même pour les plus jeunes d'entre nous, même pour celles et ceux qui n'ont pas encore vécu une grande vie. Cette promesse, elle vaut aussi au soir de notre vie. Elle vaut lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous nous plions en quelque sorte à la routine ou la difficulté de la vie, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous ne connaissons que l'ombre de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est sa grâce, le fait que nous sommes aimés de manière inconditionnelle, qui nous rend capables de nous tenir debout sur la terre des vivants et d'aller notre route, d'emprunter l'un des sentiers de la justice de Dieu. Oui, d'ores et déjà, entendons que le bonheur et la grâce nous sont non seulement promis, mais permis. Alors chantons notre reconnaissance en nous levant pour la quatrième strophe du psaume 81. Cette grâce de Dieu conduit l'apôtre à une autre exhortation, une exhortation qui n'est pas une loi cruelle qui nous ferait transpirer atrocement. Il y a aussi dans les exhortations de la Bible celle-ci qui vaut pour nous aujourd'hui. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu vous demande pour votre vie en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances. Voilà une exhortation qui peut être un véritable mot d'ordre pour notre vie quotidienne. Eh bien, cette exhortation de l'apôtre Paul, Émilie et Mathias ont décidé d'en faire quelque chose ce matin. Vous voulez remercier Dieu pour la naissance de votre fille, Enora. Vous avez souhaité associer l'Église à votre joie et à votre prière de reconnaissance. Je vous invite maintenant à me rejoindre près de cette table de communion. Cet adorable bout de chou est au bénéfice de l'amour de ses parents qui incarnent l'amour de Dieu présentement. Elle est aussi au bénéfice de votre foi. Et votre foi, vous avez souhaité l'exprimer avec le psaume 23. Et je vous invite maintenant à dire ce psaume qui sera pour nous ce matin notre déclaration de foi.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Vous ne la voyez pas, mais elle sourit. Elle a non seulement ouvert les yeux quand elle a entendu ses parents, mais en plus, elle sourit. Enora, Dieu te bénit, Dieu te garde, ainsi que tes parents et tous ceux qui t'entourent de leur affection. Dieu est fidèle. Il emplit de joie et de paix ceux qui placent en lui leur espérance. Et il vient chercher avec ténacité et patience celles et ceux qui restent fermés à sa parole. Enora, l'amour de Dieu t'accompagne et t'accompagnera chaque jour de ta vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu notre Père est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces paroles, tu les graveras dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison ou en chemin. C'est à cela que Dieu vous appelle pour Enora. Avec l'Église qui vous entoure et qui constitue sa famille spirituelle, vos frères et vos sœurs, eh bien l'amour de Dieu sera son compagnonnage, ce qui l'attirera vers des horizons où elle pourra éprouver ce qu'est une vie alimentée par le lait et le miel dont parle la Bible. Vous prierez pour elle, et ainsi, vous serez témoin de cet amour indéfectible de Dieu pour votre fille. Alors, je vais, même si c'est encore un tout petit bout de chou, je vais procéder à la présentation. Je vais vous l'emprunter. Frères et sœurs, voici Enora. Enora, voici ta famille spirituelle. Tu es ici chez toi. Aucune contrainte ne te retiendra jamais dans cette communauté qui est l'un des visages de l'Église universelle. Tu es membre du peuple de Dieu. Et à ce titre, il faut que tu entendes à quel point tu es doté d'une dignité infinie. Tous ces gens qui sont là, qui te regardent avec beaucoup d'émotion, n'ont qu'une seule ambition pour toi, que tu puisses accomplir ta vocation, être libre et responsable, et que tu puisses toi-même emprunter l'un des sentiers de la justice de l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, continuons notre action de grâce en chantant le cantique 568. Nous chanterons les strophes 1 et 2 du cantique 568. Seigneur Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends vivants ces versets que nous écoutons pour nourrir notre être intérieur. Par ton Esprit, aide-nous à faire en sorte que ces paroles deviennent ta parole. Amen. Je reprends pour notre méditation les versets qui, dans ce psaume 23, constituaient pour vous l'essentiel du message que vous vouliez entendre. Je vous les lis tels que vous me les avez indiqués. Et puis après, je me permettrai de vous taquiner un petit peu. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Voilà, frères et sœurs, les versets que nous allons méditer, et pour leur faire bon accueil, chantons la cinquième strophe du psaume 81 et restons assis pour chanter cette cinquième strophe. Je trouve que vous avez eu bien raison de choisir ce psaume pour accompagner la présentation de votre fille. À peu près 8 jours après sa naissance, à l'image de Jésus, avec un petit délai parce que, comme on n'est pas superstitieux, on reporte ça sur le dimanche qui suit. Chers frères et sœurs, que souhaiter de mieux pour son enfant que le bonheur et la grâce ? D'accord, ce n'est pas tout à fait partagé par à peu près la moitié de la population française. Mais pour nous, qui sommes habitués à ce vocabulaire, y a-t-il plus grande espérance pour ces enfants que le bonheur et la grâce ? Moi, à vrai dire, je pense qu'avec le bonheur et la grâce, on réussit sa vie. Avoir quelques bonnes notes pendant sa scolarité, ce n'est pas tout à fait inutile. Mais ce ne sont que les conséquences du bonheur et de la grâce. C'est par ces mots que le rédacteur du psaume 23 termine ce psaume qui est un psaume de pèlerinage. Celui qui parle est un pèlerin qui est venu pour l'une des grandes fêtes qui ont lieu à Jérusalem. Et au moment de retourner chez lui, il y a ce dialogue avec un prêtre, manifestement, qui exprime à la fois sa confiance et son espérance. Et je pense que la vie, notre vie, peut être comprise comme un pèlerinage. Un pèlerinage qui, bien sûr, nous fait aller de lieu en lieu sur le plan géographique, mais qui nous fait aussi voyager intérieurement. Et comment ne pas penser à ce que sera le voyage intérieur de votre fille. Toutes ces découvertes qui, au fur et à mesure, vont changer son regard sur le monde, vont aussi changer ses repères en termes de vision de l'humanité. Nous avons toutes et tous connu des évolutions au cours de notre vie. Moi, quand j'avais 17-18 ans, j'étais très farouchement attaché à la peine de mort pour les plus grands criminels. On a le droit d'évoluer. Et je pense que le travail spirituel nous fait travailler en profondeur ces questions qui sont à la fois la vision de l'humanité que nous avons et notre compréhension de ce qu'est la justice, les fameux sentiers de la justice dont parle ce psaume. Alors, il ne s'agit pas de dire quelles devront être les évolutions de votre fille. Il s'agit juste de dire que la vie est un pèlerinage et que vous ne devrez jamais être inquiet de voir des évolutions dans son caractère, dans ses goûts, ses passions et aussi dans ce qui, pour elle, constitue un idéal de vie. Par contre, il est vrai qu'il sera heureux que vous aidiez Enora à orienter tout cela vers l'horizon que Dieu dresse devant elle, plutôt que de faire, en quelque sorte, demi-tour et de s'éloigner de cet horizon où règne le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. J'aimerais tout d'abord que nous entendions à quel point ces deux mots disent une chose fondamentale qui n'est peut-être pas encore évident pour elle, c'est que la vie n'est pas un cadeau empoisonné. Le premier point que je retiens de ce psaume, c'est que la vie n'est pas un cadeau empoisonné. On peut se dire, est-ce que ce n'est pas une sorte de folie de la part des parents de faire venir un enfant au monde, aujourd'hui, dans notre monde, avec toutes les horreurs et toutes les catastrophes que nous voyons au jour le jour ? Eh bien, ce psaume nous dit que la vie n'est pas un cadeau empoisonné. En ce jour où Enora a été présentée à notre communauté devant Dieu, vous pourrez lui dire que nous lui avons affirmé qu'elle est justement au bénéfice de cette grâce de Dieu qui l'accompagnera en toutes circonstances, aussi bien auprès des eaux paisibles, lorsque la vie sera douce et tranquille, qu'à travers la vallée où règne l'ombre de la mort, lorsque la vie sera assez mortelle. La foi chrétienne, c'est cet attachement viscéral au fait que la vie est l'occasion d'un bonheur possible, et un bonheur qui n'est pas égoïste. Ce n'est pas un bonheur qui se fait contre les autres. Le pèlerin de ce psaume est allé à cette fête qui rassemble, comme aujourd'hui, une communauté de personnes qui peuvent vivre ensemble sous la miséricorde de Dieu. Il y a donc non seulement un bonheur possible, mais une joie fraternelle permise. Et en faisant venir Enora au monde, vous lui offrez la possibilité d'éprouver des satisfactions qu'elle voudra bien accueillir dans son existence, nous l'espérons. Elle ne vient pas au monde condamnée à subir une histoire qui la rendra malheureuse ou qui la rendra esclave. Elle ne sera pas telle un fétu de paille ballotté par les circonstances de l'histoire et des puissances sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Elle ne vient pas au monde non plus pour payer votre future retraite. Elle vient au monde, par grâce seule, pour entreprendre son propre pèlerinage. Ce pèlerinage qui lui permettra d'habiter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une existence qui corresponde à ce qui lui ira le mieux. Une existence qui correspondra à ses goûts, à ses capacités et à sa vocation personnelle. Elle ne sera ni condamnée à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire, ni condamnée à faire ce que l'Église attend d'elle. Nous sommes toutes et tous les serviteurs d'Enora, au sens où nous sommes là pour incarner la grâce de Dieu qui consiste à lui prodiguer tout ce qui lui sera nécessaire pour se lancer dans l'aventure de la vie. Bien entendu, chère Enora, il y aura quelques difficultés. La Bible ne nous cache rien des aspects pénibles de la vie. Mais comme il n'y a pas de retraite en matière de vie spirituelle, le critère de pénibilité ne rentre pas en ligne de compte. La Bible est même constellée de passages qui nous disent non seulement les difficultés de la vie, mais aussi le caractère insupportable de la vie. Et c'est là où il me faut vous taquiner un peu. C'est que vous avez choisi les versets de ce psaume 23 qui sont tout mignons, tout beaux. Vous avez même coupé le verset 5 en deux. Le début du verset 5 dit que Dieu dresse une table devant nos adversaires. Cela indique bien qu'il y a de l'adversité dans ce monde. Et tout le bénéfice de la vie spirituelle, c'est de nous préparer à faire face à cette adversité. Il y a de nombreux passages dans la Bible qui sont vraiment sordides, épouvantables, où la violence, la dispute à l'injustice, et tout confine à la barbarie totale. Cela existe, cela est possible. Et la vérité, c'est que la foi chrétienne n'est pas une garantie que rien de fâcheux ne nous arrivera. Je serais presque tenté de dire l'inverse, d'ailleurs. J'espère que ça ne va pas vous faire fuir immédiatement. La foi chrétienne nous sensibilise aux questions de justice, aux questions de paix, aux questions de liberté, tant et si bien que nous sommes particulièrement sensibles à toutes les situations où la justice, la paix et la liberté sont malmenées, voire anéanties. En conséquence de quoi, le chrétien, pour ne parler que de nous, est donc un être tourmenté, parce que ce qu'il voit autour de lui, parfois, lui cause véritablement du souci, le ronge de l'intérieur, parce que c'est insupportable de voir des situations où la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour ne prendre que quelques thèmes qui nous sont chers, sont particulièrement malmenés. La foi chrétienne, en nous rendant sensibles à ce qu'est une vie bonne, nous rend du coup sensibles à ce qu'est une vie insupportable. Et dans une certaine mesure, il faudra que vous vous réjouissiez qu'Enora soit parfois malheureuse de voir ce qu'elle voit. Cela signifiera que c'est un être sensible et qu'elle a chevillé au corps le goût de la beauté et de la bonté de Dieu. Mais si votre Enora deviendra sensible au malheur, elle saura également que les situations difficiles ne sont pas le point final de l'histoire. En compagnie de son berger, elle saura qu'elle peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, ce qui est une image pour évoquer toutes ces situations où il nous semble qu'il n'y a pas vraiment d'issue favorable, que c'est tout simplement l'enfer et qu'il n'y aura pas le bout du tunnel. Et bien précisément, tous les tunnels ont un bout. En compagnie de son berger, elle saura qu'elle pourra traverser la vallée de l'ombre de la mort, qu'elle pourra traverser tous les déserts et toutes les nuits aussi. Elle pourra s'asseoir face à l'adversité, parce qu'elle sait qu'elle sera en mesure de faire face à l'adversité. Elle pourra regarder la vie droit dans les yeux, même lorsque la vie ne présentera pas un visage très attrayant, car son berger divin lui donnera le courage d'affronter toutes les situations. Ce n'est qu'un petit bout de chou, mais pensez au petit Gédéon, au petit David. Ils ont regardé la vie droit dans les yeux et ils l'ont emporté, parce qu'il y avait cette promesse: va avec la force que tu as. La vie n'est pas un cadeau empoisonné. Il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Pourquoi ? Mon troisième point est de constater que la vie spirituelle nous donne une force de vie qui nous permet de faire face à cette adversité. Et le moment est venu de nous intéresser plus précisément à ce bonheur et à cette grâce qui est promise à chacun d'entre nous, pour voir de quelle manière cela fonctionne dans notre quotidien. La grâce, c'est la resed en hébreu. C'est le fait de prodiguer à quelqu'un ce qui lui est nécessaire pour mener sa vie dans toutes les dimensions possibles de l'existence. Appelez ça la miséricorde si vous voulez. C'est le fait qu'il est de la responsabilité des parents de pourvoir aux besoins de l'enfant. Et après, l'enfant mènera sa vie. Pour nous, ce qui compte, c'est de pourvoir à ses besoins fondamentaux. Souvenez-vous de la petite promenade de santé d'Abraham avec son fils, Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ? Et Abraham répond, tout nourri de sa foi, « L'Éternel pourvoira. » Pourvoir, ça veut dire voir pour quelque chose. Ça veut dire se projeter, c'est-à-dire avoir une vision, c'est-à-dire avoir du désir. Et la foi suscite cette vision d'un avenir infiniment désirable. C'est le caractère inconditionnel de l'amour qui offre à quelqu'un ce qui lui sera profitable pour accomplir sa vie en plénitude, dont il est question avec ce mot « resed », la grâce. C'est Dieu comme ressource inépuisable de défis à relever pour rendre la vie infiniment plus intéressante. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement de la gaver de bonnes choses. Il s'agit aussi de lui faire découvrir des défis à relever. Aujourd'hui, on dirait pour pimenter la vie. Moi, je dirais pour rendre la vie intéressante, pour lui donner du sens. Donner de la couleur, donner de la saveur. Alors, c'est bien sûr le fait qu'Enora est en mesure de pouvoir aujourd'hui accomplir toute chose. Aujourd'hui, Enora est face à toutes les possibilités. Voilà ce que Dieu instille dans son existence. Elle pourra faire tous les sports qu'elle veut. Elle pourra jouer de l'instrument qui lui convient le mieux. Elle pourra parler les langues qui lui seront utiles ou agréables. Aujourd'hui, elle peut apprendre toutes les langues qui existent sur cette planète. Quand elle aura notre âge, ça sera fini. Les synapses seront bouchées, crac. C'est le fait d'avoir cette relation de confiance avec Dieu qui nous révèle à quel point nous sommes équipés pour faire face à la vie, que nous pouvons faire bon accueil à toutes les nouveautés que nous croiserons pour en faire une richesse supplémentaire qui viendront renforcer notre bagage personnel. La RECED, c'est donc le fait de prodiguer, de pourvoir tout ce qui est utile pour la suite. Le bonheur, en hébreu, c'est tov, un mot que vous connaissez bien, parce que c'est le mot qui ponctue Genèse 1. Dieu dit quelque chose, ce quelque chose est visible, et Dieu vit que cela était tov. Et regardant toute la création, il vit que c'était tov meod, très tov. Nos traductions disent souvent « bon ». Dieu vit que cela était bon. J'ai eu l'occasion, à de multiples reprises, de vous dire qu'il vaudrait mieux traduire « tov » par « vivable ». Dieu voit que la création est vivable. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est la possibilité d'éprouver de très grandes réjouissances. Le monde est vivable. Notre existence n'est pas destinée à une peine éternelle, explique Genèse 1. Eh bien, c'est ce « tov ». Ce mot favorable de Dieu sur notre vie qui accompagnera Enora durant toute son existence, au jour le jour. Cela veut dire, si nous faisons bien le lien entre ce texte et Genèse 1, cela veut dire que votre fille est dotée de tout ce qui lui permettra de répandre la vie en abondance autour d'elle. Elle sera en capacité d'injecter du vivable, une vie vivable, et même très vivable, là où elle sera. Même si ça sent un peu le rance, même si ça sent un peu le moisi, elle sera capable d'injecter du tov là où elle sera. C'est une manière de rendre les lieux un peu moins odieux qu'ils ne le sont. Ici et là, tout autour de nous, dans la vie de ceux que nous croisons, une route qui peut être accablante pour eux et qui le sera certainement un peu moins lorsqu'Enora les aura rencontrés. Être une force de vie, en quelque sorte, pour les autres. Et c'est parce que nous changeons notre environnement que notre propre vie devient soudainement infiniment plus légère et plus agréable. Nous avons cette capacité de faire reverdir le quotidien de ceux dont nous croisons la route. Ce quotidien qui est parfois pour nos contemporains particulièrement aride, avec des gens qui sont parfois aussi secs que l'étaient les ossements que le prophète Ézéchiel voit dans la vallée où il a été conduit. Parfois, nous avons l'impression que les gens sont arrivés au bout de leur vie. Eh bien, forte de cette spiritualité chrétienne, Enora pourra être de ces personnes qui soufflent l'esprit et qui prophétisent pour que ces ossements reprennent un peu de chair, de tendons, pour que le désert recule et que l'environnement soit un peu plus vert. Elle aura cette capacité de souffler sur bien des sécheresses, de prophétiser sur bien des pauvretés, sur toutes les misères du monde, en fait, pour ressusciter le goût de la vie, pour ressusciter l'appétit de la liberté. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est parce que votre fille est au bénéfice de l'amour de toutes ces personnes, vous incluses. Cela est possible dans la mesure où elle sera gavée d'huile, pour reprendre le terme de notre passage biblique. Nos traductions parlent d'onction d'huile. On a l'impression qu'on met un petit bout de doigt sur l'huile, on met un petit bout sur le front et hop, c'est réglé. Le verbe hébreu qui est employé, ce n'est pas le verbe machiar qui donne le Messie, celui qui reçoit l'onction d'huile. Ici, il s'agit plutôt de gaver d'huile, jusqu'à saturation, comme lorsqu'on met de la biafine. Il faut que ça ne puisse plus rentrer dans la peau. Kafi d'huile. Trop souvent, on fait de ce psaume le psaume exclusif pour les funérailles. Ce texte est à lire dès le plus jeune âge. Et vous avez eu raison de le prendre dans les premiers jours de votre fille. Ce texte nous parle de notre aujourd'hui, pas de ce qui nous arrivera une fois que nous serons morts et enterrés. C'est dès à présent que nous devons faire en sorte qu'Enora regorge d'huile qui symbolise l'amour de Dieu. Pas simplement une petite onction, pas juste un petit baume comme ça qui donnerait un petit peu de couleur, mais comme l'huile d'amande douce ou l'huile qu'on utilise là et qu'on fait rentrer dans tous les pores de la peau jusqu'à saturation. Rendre gras. Voilà ce que dit ce verbe « dachen » en hébreu. Cela signifie qu'il ne faudra jamais compter, qu'il ne faudra jamais lésiner en matière d'amour en direction d'Enora, même lorsqu'elle ne voudra pas manger sa purée, même lorsqu'elle reviendra avec un carnet de notes épouvantable, voire qu'elle l'aura signé à votre place. Vous continuerez à l'aimer d'un amour indéfectible. Même quand elle découchera, sans vous avoir prévenu. Il nous appartient de la stimuler, de développer ses liens de confiance, de lui offrir des points d'appui, de reconnaître ses talents, de lui ouvrir les yeux sur tous les aspects de la vie qui sont tov autour de nous, et même tov méod, très vivable. Et cela se fait à la condition qu'elle puisse compter sur vous, et sur vous, nous tous, à vrai dire. Au fond, quand ça sera difficile pour elle, elle saura qu'elle peut retourner dans la maison de ses parents, qui figure la maison de l'Éternel, qu'elle pourra retourner dans la maison de Dieu, notre maison ici même, parce qu'elle aura eu l'occasion d'éprouver dans sa jeunesse que nous sommes fiables, que nous répondons présents quand il y a des difficultés, quand notre parole est en accord avec nos actes. Il nous appartient de remplir aussi sa coupe, nous dit le psaume, de lui offrir des occasions d'apprendre, de lui donner de l'affection, de la consolation quand cela sera nécessaire, et de lui donner les codes de la vie en société, toutes choses qui sont utiles pour se lancer dans l'aventure de la vie, dans le monde du travail, et de lui donner jusqu'à ce que la coupe déborde. Vous ne lui enseignerez jamais trop de choses. Elle a une plasticité, une souplesse pour apprendre que vous ne pouvez pas soupçonner. Alors, ne pensez jamais que vous lui en avez trop dit, que vous lui en avez trop montré, que vous lui avez trop fait découvrir de choses. Il faut que sa coupe déborde. Il faut qu'elle soit grasse de recède et que la coupe de l'apprentissage déborde. Et ainsi, nous serons toutes et tous des figures à part entière du berger. Et ainsi, Enora aura les moyens d'habiter la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, comme pour chacun d'entre nous, d'éprouver la douceur de la présence de Dieu, de ce que la vie recèle de beauté et de raisons d'œuvrer pour la rendre encore plus belle et encore plus jouissive. Amen. Maintenant que nous l'avons bien dans l'oreille, nous pouvons nous lever pour chanter le psaume 23. Nous chanterons les trois strophes de ce psaume 23. Prenons place. Vous pourrez peut-être un jour essayer de le jouer à la façon Laurence d'Arabie, comme sur les caravanes de chameaux. Quelques informations à partager dans les familles. Tout d'abord, nous nous réjouissons de la présentation d'Enora et nous aurons l'occasion de la voir de plus près, de féliciter ses parents autour d'un verre fraternel qui est organisé juste derrière les rideaux. Donc ne partez pas trop vite, faites le détour par la tribune pour que nous puissions nous réjouir les uns avec les autres. Je vous annonce le décès de Faizy, qui est l'époux d'Anna Richardson. Les obsèques auront lieu mardi après-midi à 14h à Gramont, selon le rite bailli. Il y a cette feuille d'annonce qui vous donne tous les rendez-vous. J'attire votre attention au verso sur la rencontre qui aura lieu le 14 février. Ce n'est pas réservé aux personnes qui n'auraient pas leur chacun ou leur chacune pour le 14 février. Vous pouvez venir en couple. C'est un concert qui est donné à la faculté de théologie par l'ensemble vocal Zamariel et dont les bénéfices seront versés à l'association des amis de la faculté. Une association extrêmement utile, puisqu'elle peut venir en secours des étudiants en théologie qui ne sont pas toujours dotés de tous les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour mener à bien leurs études. Donc, une bonne façon de soutenir cette association qui soutient les étudiants de la faculté de théologie, c'est de participer à ce concert qui sera aussi l'occasion d'un bon moment musical. C'est maintenant le moment de notre offrande pour l'Église. Sachez qu'il y a aussi à la sortie des formulaires pour faire des virements permanents. Vous voyez, comme ça, ça vous dépréoccupe du souci de combien ai-je donné, est-ce que j'ai donné suffisamment. Vous réglez par mois ou par trimestre votre virement à la banque et c'est réglé. Voilà, les formulaires sont à votre disposition et maintenant, nous recueillons votre don généreux. Nous nous unissons dans la prière. Dieu notre Père, nous voulons avant toute chose rendre grâce pour la présence d'Enora parmi nous. Rendre grâce pour l'amour qui a préparé sa venue. Rendre grâce pour la joie avec laquelle elle a été accueillie. Nous te la confions et nous te la remettons avec tendresse pour qu'elle soit au bénéfice consciemment de ta miséricorde. Nous te prions pour ses parents, pour toute sa famille. Tu demeures avec eux et tu leur donnes de trouver dans la communion de l'Église la force, la patience et la sagesse dont ils auront besoin jour après jour. Nous te prions pour que nous nous ouvrions à cette grâce qui renouvelle en chacun de nous la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est cela qui nous permettra d'être témoins fidèles de l'Évangile pour Enora et pour tous nos contemporains. Donne à ton Église, par ta grâce, le courage de confesser sa foi sans crainte et de témoigner avec gratitude de ton saint amour. Maintiens-nous dans les sentiers de ta justice, au milieu de toutes les adversités. Et préserve-nous aussi bien de tout désespoir quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort que de tout orgueil lorsque nous sommes près des eaux paisibles au cœur de verts pâturages. Ne nous permets pas de rester insensibles aux souffrances que nous côtoyons chaque jour. Mais fais de nous des témoins de ton règne de justice, de paix et d'amour. De manière à ce que s'accomplisse cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous disons en communion avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. La paix du Christ, à laquelle nous sommes toutes et tous appelés pour former un seul corps règne dans notre cœur. Allons, frères et sœurs, avec la grâce qui nous est donnée. Amen.